Le drame à Marseille dans la nuit de samedi à dimanche, quand un immeuble de la rue de Tivoli dans le 5e arrondissement s'effondre dans un vacarme assourdissant et pour une raison qui reste encore à déterminer. Je m'appelle Grégory Philips, je dirige le service reportage de BFM TV et depuis dimanche, 6h du matin, on vous raconte ce drame sur l'antenne avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux dans la cité phocéenne. Comment nos équipes travaillent-elles sur une catastrophe d'une telle ampleur? Où trouvent-elles et où vérifient-elles leurs informations? Comment raconter la douleur des Marseillais? Nous allons en parler avec Boris Karlamov, reporter ici à Paris et qui par hasard se trouvait samedi soir à Marseille. Il a quasiment vécu l'explosion en direct avec Lola Baye, l'une de nos correspondantes, et puis aussi avec Julien Desvaches qui est le chef du bureau de BFM Marseille Provence. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le mardi 11 avril, il est midi. Tous les trois n'ont quasiment pas dormi depuis un peu plus de 48 heures. Marseille, nos reporters ont vécu l'explosion de la rue de Tivoli. C'est l'épisode 45 du service reportage. Bonjour à tous les trois et merci de prendre un peu de temps pour échanger avec nous. Vous êtes tous les trois à Marseille. On va commencer avec toi, Boris, parce que tu es l'envoyé spécial de BFM. Et alors, c'est un peu étonnant, il faut que tu nous racontes ça. En fait, tu étais à Marseille dès samedi soir pour totalement autre chose, c'est ça ?
Ouais, effectivement, on était en train de faire un reportage sur un fait divers. Et puis le hasard a fait que notre lieu de tournage se trouvait à 100 mètres du lieu de l'explosion rue de Tivoli. Donc on venait d'enregistrer avec Magieri Margossev ce qu'on appelle un plateau froid, donc un faux duplex pour la matinale du lendemain. On se dirigeait vers notre véhicule pour rentrer à l'hôtel et à ce moment-là, eh bien, on a entendu une énorme explosion dans le quartier. Le sol a vibré, les vitres ont volé en éclats, les alarmes des voitures se sont déclenchées. Donc on a pris la décision de prévenir la rédaction de BFM TV à Paris. On a pris le véhicule pour faire un petit tour dans le quartier et on a roulé pendant 2 minutes, 3 minutes et là face à nous une immense colonne de marins-pompiers se dirigeait vers une rue de ce 5e arrondissement et on est arrivé sur place et là on a vu des gens dans la rue, le regard hagard, parfois en pyjama, parfois même pieds nus avec un sentiment d'incompréhension et puis plus on avançait dans ce quartier et plus on voyait un immense nuage autour du quartier et là on a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un immeuble puisqu'on a vu les marins-pompiers en action sur un tas de débris, un tas de béton par terre. On a compris que c'était un immeuble qui s'était effondré dans la rue, quoi.
En fait, totalement par hasard, et c'est extrêmement rare, vous arrivez quasi immédiatement sur les lieux de la catastrophe. Normalement, on arrive un peu après, enfin voilà, mais là, vous arrivez en même temps que les pompiers, quoi.
On arrive en même temps que les secours, et c'est ça qui est le plus hallucinant, entre guillemets, dans cette histoire. Donc, on est les tout premiers journalistes à être sur place, on est vraiment avec la population, même sentiment que la population, incompréhension, à essayer de savoir ce qui se passe réellement, et c'est que quelques minutes, quelques heures plus tard, qu'on aura la confirmation qu'il y a eu une explosion dans un immeuble, sans savoir pour autant toujours aujourd'hui l'origine de ce drame, quoi.
Effectivement, Perrine, avec un travail très compliqué pour ces marins-pompiers. Ils sont plus d'une centaine à s'être mobilisés depuis minuit 40, l'heure de cette explosion dans le 5e arrondissement de la cité phocéenne. Avec, vous le voyez sur ces images de Margossev, encore un important dispositif de secours. Le périmètre, il a été bouclé. Alors, la difficulté, c'est que après cette explosion, eh bien, il y a un incendie qui s'est déclenché sous les décombres, sous les gravats. Un incendie qui n'est toujours pas maîtrisé. Et cet incendie, en fait, eh bien, il complique ardemment la tâche des marins-pompiers puisque les équipes cynophiles ne peuvent toujours pas commencer à travailler, ne peuvent toujours pas commencer à rechercher d'éventuelles victimes sous les décombres. On ignore pour l'instant s'il y a des personnes. On sait qu'il y avait 4 étages dans cet immeuble du 5e arrondissement, 5 appartements. Le bilan, qui est toujours très provisoire, fait état de 33 personnes impliquées, 5 personnes en urgence relative, mais toutes ces personnes, eh bien, elles habitaient dans des immeubles adjacents dans cette rue de Tivoli, au cœur de la cité phocéenne.
Là, Boris, on est donc dans la nuit de samedi à dimanche, en pleine nuit, enfin vers 1h du matin. Est-ce que tout de suite vous vous dites c'est très grave ?
Ouais, on a au bruit de la détonation, on a compris que c'était très grave et qu'on assistait à quelque chose qui était totalement anormal. Donc voilà, on prévient Paris, on tourne toute la nuit avec Margot Sève, on fait les images, on fait les toutes premières réactions. Et puis le temps passe extrêmement vite, on reste en lien avec la rédaction et là commence la matinale donc de BFM à 6h du matin et s'enchaînent les duplex tous les quarts d'heure quoi.
Toi Lola, tu es à ce moment-là de permanence au bureau de BFM Marseille, quand est-ce que tu es prévenue et comment ça se passe pour toi?
Moi en fait je dormais, j'étais d'astreinte et là vers 1h30 du matin il me semble Boris m'appelle et il me dit Lola il se passe quelque chose, on a entendu une détonation. Faut que tu viennes. Donc tout de suite, je comprends que c'est quelque chose de grave si on m'appelle en plein milieu de la nuit. Je fais au plus vite. Je prends les premiers vêtements que j'avais avec moi. Je vais directement dans la voiture et je fonce sur place. Et là, sur place, je découvre une scène assez de chaos, en fait, assez apocalyptique. Parce que c'est vrai que on voit des gens qui marchent le regard hagard. Il y en a certains qui ont des couvertures de survie. Quand on parle avec eux, on essaye, on sent qu'il y a un choc. Ils veulent pas parler, souvent... Ils sont perdus en fait, même dans leur regard, il y a une certaine détresse. Il y a des colonnes de pompiers sur place, il y a la mairie, un périmètre de sécurité qui est bouclé. Donc tout de suite, je comprends que c'est quelque chose d'important qui se passe. Et j'enfile entre guillemets le costume de journaliste dans la mesure où je mets de la distance, j'essaie de vivre les choses avec le plus grand détachement possible. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a une certaine adrénaline en même temps qui monte. On est sur le qui-vive, on essaie de comprendre, d'avoir des informations qui sont au compte-gouttes. Il y a la mairie. Et surtout, en fait, tout de suite, on pense au syndrome de la rue d'Aubagne, vraiment.
Même si on apprendra plus tard, effectivement, que la situation n'est pas vraiment comparable à la rue d'Aubagne, parce que l'immeuble de la rue de Tivoli n'était pas vétuste. Juste un point, Lola, quand tu débarques comme ça en pleine nuit, quelles sont tes sources d'informations? C'est les marins-pompiers? C'est les personnels de la mairie? Enfin, comment est-ce que tu arrives à avoir des informations vérifiées?
En fait, j'essaie de recouper les sources et de reconstruire le puzzle. Donc, à la fois, je glane auprès des passants, des rares passants que je croise. Après, c'est aussi auprès des marins-pompiers, bien évidemment. La mairie, la personne qui est d'astreinte, de ce que je vois, en fait. Et j'essaie après de vérifier, de recontextualiser. Et bien sûr, même si, attention, je faisais pas la comparaison avec la rue d'Aubagne, puisqu'on sait que les deux événements n'ont a priori rien à voir. Juste, on sent que c'est quelque chose qui revient, en fait, dans l'inconscient collectif. Après voilà, j'essaye aussi d'activer des sources policières de mon côté, mais on sent que c'est pas évident quoi, que tout de suite c'est sur tout le monde est sur le qui-vive et qu'il faut en recouper au plus l'information. Donc beaucoup de prudence, on essaie de pas s'avancer, de pas donner de bilan, de peut-être le plus des fois même de pas donner d'informations tant qu'on n'a pas voilà de vérification. Mais voilà, j'essaie de recouper au maximum avec tout le monde.
Julien, toi, tu es le patron de BFM Marseille-Provence. Donc évidemment, c'est un événement extrêmement important pour ta chaîne. Comment est-ce que tu mets tes équipes en branle à partir du moment où tu apprends qu'il y a eu cette explosion?
Alors nous, la priorité à ce moment-là, c'est de pouvoir très rapidement informer nos téléspectateurs. C'est ce qu'on a fait. On a été les premiers à donner l'information en télévision, puisque Marie Roux, qui est notre présentatrice matinale, est arrivée à peu près vers 2-3 heures entre 2 et 3 heures du matin au bureau. Et elle a immédiatement rajouté dans le journal de la nuit cette information. Et dès 4 heures du matin, on a pu donner cette information sur ce drame, avec forcément, dans un premier temps, des informations parcellaires et qui méritaient d'être complété. C'est ce qu'on a fait ensuite dès qu'on a pris l'antenne très tôt à 6h du matin, où là on a pu faire une édition spéciale qu'on a lancée à partir de 6h et qui donc a duré tout au long de la journée, qui dure maintenant depuis 3 jours puisqu'on est mardi. Évidemment, il y a pour BFM TV, c'était un dispositif conséquent qui nous a forcément aidé, puisque nous, on travaille main dans la main avec la rédaction de BFM TV et on essaye de produire des choses ensemble, de compléter parfois avec des tournages et BFM TV plutôt côté direct, côté événement. Et c'est ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent, à travailler, à compléter avec nos forces à nous, c'est-à-dire... la particularité, c'est que nos reporters connaissent le terrain, ils connaissent le territoire, ils ont pu aller à la rencontre des habitants. On a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de paroles fortes d'habitants qui étaient sous choc à ce moment-là.
D'un esprit très triste, choqué et très triste. beaucoup de pensées pour les victimes qu'on est en train de encore de déblayer.
Vous en connaissiez, en tout cas vous avez des proches qui étaient rue de Tivoli,
Qui sont victimes, non, ouais. Mais qui ont été des victimes collatérales au bâtiment numéro 15, oui.
Ouais.
Voilà, qui ont tout perdu.
Parce qu'on rappelle la chronologie, le 17 victime d'une explosion, il s'effondre.
Et le 15 s'effondre.
Le 15, quelques heures plus tard, s'effondre à son tour. Oui. Le 19 reste extrêmement fragilisé. Plus de 200 personnes évacuées, c'est quasiment tout le quartier. Hein.
C'est ça. Ouais. Et en fait, évidemment, on pense aux victimes, mais on pense aussi à la famille des victimes. Et puis on pense à tous les dommages collatéraux des personnes qui habitent aux alentours, qui sont donc des délogés.
Ouais.
Et du jour au lendemain, hein, c'est... Alors leur vie continue, ils doivent aller au travail, les enfants à l'école, leurs études, et puis voilà, ils n'ont plus rien, ils se retrouvent avec leurs valises et il faut derrière, c'est vrai qu'il y a un élément de, enfin il y a un mouvement de solidarité qui s'est mis tout de suite en place dans le quartier. Et j'espère voilà qu'ils vont trouver des logements dignes, le temps de pouvoir retrouver leur vie.
Et nous, notre rôle après, en tant que chaîne d'information locale, ça va être de suivre ce qui va se passer dans les prochains jours, de continuer d'en parler, là où peut-être certains médias nationaux vont peut-être moins s'y intéresser. Nous, on va continuer à en parler, on va continuer à relayer aussi les gestes de solidarité, puisque c'est aussi une des particularités de Marseille. C'est une ville où les gens se parlent beaucoup, les gens communiquent beaucoup, où on parle à son voisin. Il y a une vie de village dans beaucoup de quartiers de Marseille. Marseille, c'est la ville aux 111 villages. Et ça va continuer. Et nous, on est aussi là pour raconter un peu cette solidarité qui s'organise.
Boris et Lola, vous qui êtes arrivés sur les lieux de la catastrophe très tôt, il faut effectivement recueillir des témoignages. Comment est-ce que vous faites quand vous êtes face à des gens qui sont, j'imagine, en état de choc? Faut y aller doucement, progressivement. Il faut parfois ne pas tendre le micro et la caméra. Comment est-ce que vous décidez de travailler à ce moment-là?
Il faut faire très attention à pas choquer les personnes. Il faut prendre en compte l'émotion, le traumatisme qu'elles sont en train de vivre. Donc il faut avoir une approche très délicate pour pas non plus rajouter du drame au drame. Souvent les gens, ils ont besoin de, face à ce drame, ils ont besoin de se libérer, de mettre des mots sur leurs émotions. Donc c'est relativement facile de faire des témoignages. Mais voilà, il faut avoir une certaine prudence, ne pas trop les bousculer. Mais le fait de parler souvent aux caméras, ça permet un peu d'alléger leur peine, entre guillemets, de mettre des mots sur leurs sentiments. Donc c'est quelque chose qui, nous en tant que journalistes, est plutôt simple à faire, mais il faut vraiment y aller avec de la prudence et surtout prendre en compte le côté humain sur ce genre de drame, quoi.
Lola, est-ce que tu as aussi des gens, et on le comprend bien, qui refusent tout simplement de témoigner ou de raconter ce qu'ils ont vu?
Ah oui, je dirais que c'est la première difficulté en général à laquelle on se heurte. En fait, il y avait ceux qui étaient un peu moins, on va dire, moins touchés, qui sont dans des rues perpendiculaires ou parallèles, où c'était eux plus facile de la faire parler, mais les témoignages les plus forts et les plus délicats, ce sont ceux qui étaient dans la rue de Tivoli, qui habitaient soit à un des immeubles de la rue. Ce qui était compliqué, c'est que je me rappelle, je suis allée devant un des centres d'hébergement qui accueillait les rescapés, et là, en fait, c'était très 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 compliqué. J'y suis allée vraiment sans caméra, toute seule, en essayant de prendre le temps de les écouter. Souvent, les gens, en fait, ils ne voulaient pas revivre ce qui s'était passé. On les comprend, en fait. Ils arrivent avec seulement leur téléphone, ils sont partis comme ça, et en fait, ils ont perdu une part de leur identité, une part d'eux-mêmes, avec ce drame. Donc, prendre le temps, des fois, ça demande aussi un peu de patience. Donc, c'est au fur et à mesure, en restant parfois toute une matinée, où à la fin, ça s'est décanté, et certains voulaient bien parler. Mais c'est vraiment un travail d'écoute et de délicatesse aussi. On le sent de manière instinctive aussi très vite, qu'il ne faut pas braquer certaines personnes.
Là, on est mardi à la mi-journée, donc on est plus de 48 heures après le drame. J'imagine que tous les trois, évidemment, c'est anecdotique comparé à ce que les Marseillais viennent de traverser, mais j'imagine que vous n'avez pas beaucoup dormi ou très peu dormi, Boris ?
Oui, très peu dormi. Il y a eu d'abord le samedi soir, donc dans la nuit de samedi à dimanche, où on a fait, donc avec Marc Grossev, une nuit blanche, du travail de minuit 40 jusqu'à 13h, avec quelques heures de sommeil l'après-midi, et tout de suite il fallait renquiller derrière pour continuer les duplex. Mais je pense qu'il y a une tellement forte adrénaline sur le terrain, c'est ce qui nous a permis de tenir. On a vécu un moment assez inédit, assez traumatisant aussi par moment. Donc l'adrénaline nous a aidé à tenir et c'est ce qui nous a permis de travailler dans de bonnes conditions et de tenir jusqu'à la fin. C'est plus peut-être le retour à Paris qui pourrait être un peu plus difficile quand on va un peu atterrir sur terre entre guillemets quoi, et qu'on va vraiment réaliser ce qu'on a vécu.
Julien, toi tu le disais tout à l'heure, vous allez évidemment poursuivre et continuer à raconter les conséquences de cette catastrophe. Ça veut dire que vous êtes parti non pas sur un sprint mais sur un marathon qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines.
Oui, c'est ça. Le marathon, c'est le bon mot, puisque à l'heure où on se parle, il n'y a que 6 victimes qui ont été retrouvées. Elles ne sont pas encore toutes identifiées. Il faut s'attendre dans les prochaines heures à d'autres victimes. Là, les pompiers sont en train de déblayer pierre par pierre pour essayer de retrouver donc ces dernières victimes dont on sait, on est quasiment certain qu'il y en aura d'autres. Et donc, c'est vrai qu'il y a à la fois ce travail de recherche qui continue, ça va durer un certain temps. Il va y avoir ensuite le travail de deuil, les obsèques, les hommages. Ça a commencé à partir d'aujourd'hui avec des livres de condoléances qui ont été ouverts en mairie, avec les drapeaux en berne. Il y aura les obsèques dans un second temps. Il y aura sûrement un hommage, puisque vendredi, il y a un conseil municipal à Marseille qui risque d'être fortement marqué par cet événement, où on imagine que les élus en parleront en longueur et il y aura probablement un hommage là aussi. Et puis, il va y avoir, comme rue d'Aubagne, même si effectivement il faut faire un distinguo, puisque comme vous l'avez dit, les causes ne sont pas les mêmes, mais il va y avoir, comme rue d'Aubagne, un trou dans ce quartier. On l'appelle la dent creuse, rue d'Aubagne, c'est-à-dire que les immeubles qui se sont effondrés n'ont pas été reconstruits. La mairie réfléchit toujours à ce qu'elle pourrait faire, ce qu'elle pourrait mettre en place, rue d'Aubagne. Ici aussi, il va y avoir donc dans cette rue de Tivoli un trou béant qui va rappeler aux Marseillais, à chaque fois qu'ils passeront, que ce drame a eu lieu.
Lola et Julien, je voudrais terminer avec vous. Vous êtes tous les deux Marseillais, au moins d'adoption. Vous vivez à Marseille. La solidarité dans ce quartier, autour de la rue de Tivoli, dans le 5e arrondissement, c'est quelque chose que vous ressentez fortement déjà ?
Tout à fait, hein. C'est ce que j'aimerais souligner, c'est qu'en fait, dans ce quartier, il y a plusieurs communautés. On le ressent, cette communion, en fait. C'est plus fort qu'ailleurs, vraiment. Il y avait, par exemple, Mehdi, hier, que j'ai croisé. Mehdi, qui habite aussi en face, qui a assisté au drame. Et avec sa femme, hier encore, ils sont allés distribuer des pizzas aux riverains, aux passants. Ils ont aussi fait en sorte de distribuer des vêtements. On sent vraiment qu'il y a ce sentiment de communion, de solidarité qui est plus fort qu'ailleurs. Et par exemple, il y avait aussi ce moment fort comme la veillée hier à l'église Saint-Michel, où tout le monde s'était réuni, où justement les gens parlent entre eux et s'entraident, prennent leurs contacts. Ils ont même créé un groupe WhatsApp entre eux aussi pour s'aider. Donc c'est ça qui est assez fort et aussi assez beau à souligner.
Et là, par exemple, on parlait de ces gens qui se sont mobilisés d'eux-mêmes pour apporter de l'aide, pour apporter des denrées. Il y a des habitants aussi qui ont des Airbnb qui les mettent à disposition des gens qui ont besoin d'être relogés. On a une boulangerie dans cette rue qui est restée ouverte toute la nuit, dans la nuit de dimanche à lundi, pour offrir gratuitement aux marins-pompiers, aux secouristes, des pains au chocolat, des croissants. C'est vraiment le l'âme de village de ce quartier. Alors on est dans le quartier du Cama, qui est en plus un quartier en pleine mutation, qui est un peu au cœur du renouveau marseillais. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment ressorti tout au long du week-end.
Bon, merci à tous les trois. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous raconter la manière dont vous avez couvert cette catastrophe qui, évidemment, a provoqué énormément d'émotions à Marseille, mais aussi dans tout le pays. Merci à tous les trois. Bon courage pour la suite de la journée. À bientôt. À bientôt.
Merci. Salut.
Voilà, c'était le 45e épisode du service reportage, à retrouver sur toutes les applis de podcast. Je vous dis à très bientôt.